principe, c'est avant Io, ou après Io. Anne Masseran. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on est vertigé? Vaïe, du mèche pour ta sortie. Je suis au temps des juges. Vaïe, la rabbare, s'il y a une famine dans le pays, vaïe, les riches, mais Bethlehem et Yehuda. Regardez, c'est joli d'ailleurs. Il y eut une famine, alors un homme a quitté la maison du pain de Juda. Le Midrash dit parce que dans sa maison, il y avait beaucoup de pain. Seulement, il y avait beaucoup de pauvres qui venaient demander du pain. Il dit, je vais faire faillite. Il est allé, Yerida, à l'étranger, Moab. Okay. Vous voyez le. La gourbe, vis des Moab, pour habiter le champ de Moab, vous rappelez, avec Michel Prince, Sadé, c'est toujours la galoute, vous rappelez, ok. Rouve et Ishto, lui et sa femme, Ushnebanar et ses deux fils. On ne dit pas qu'ils y sont. Okay. Deuxième verset, on va dire qu'ils y sont. Veshé, Maïch, Elimelech. Et le nom de cet homme, c'est Elimelech, etc. Troisième verset, Vayamoti, Elimelech. Qu'est-ce qui se passe là? Premier verset, un homme, anonyme. Deuxième verset, voilà son nom. Troisième verset, il est mort. Ça veut dire. Je vais rattacher ça à la paracha concernant les dénombrements. Vous savez que le dénombrement est interdit et il est dangereux, alors il faut faire le dénombrement à travers les shkalim. Vous connaissez ça? Bon. Indépendamment des explications habituelles, et qui sont vraies d'ailleurs, ce qu'il faut comprendre, c'est ceci. Tant qu'on est dans l'anonymat de la collectivité, on est à l'abri. Mais le dénombrement interpelle chacun individuellement. Es-tu digne de porter ce nom-là? On va te dénombrer comme membre d'Israël. Vous suivez? Ça veut dire le dénombrement juge l'individu. Alors le jugement est dangereux, on est sorti de l'anonymat, interpellé, es-tu capable de porter ce nom dans le dénombrement des noms? Alors le jugement est dangereux. Et donc, il faut se racheter dans l'arc du dénombrement. Alors, on donne le kofer nefesh et on compte les shkalim. Ça y est, c'est clair? Oui, c'est le problème qu'il y a là. Tant que cet homme qui était le chef de la communauté de son temps. On a son nom d'ailleurs, c'est un des juges qui s'appelle, ça me reviendra, mais le nom est connu. Elimelech, c'est le nom de la Megillah de Ruth. Mais il a un nom, c'est un juge précis. Et tant qu'il est dans l'anonymat de son peuple, il est à l'abri. On l'a nommé personnellement, il a pas supporté le jugement. Non, il est parti en sortant de Babou. Il est sorti de la communauté, alors son nom est apparu. C'est ça que c'est ça, oui. Alors attendez, la Kabbalah a expliqué que ce Shekel-là, c'est le Nefesh lui-même. Parce que la gamatria de Shekel et la gamatria de Nefesh, c'est la même gamatria. Et pourquoi c'est le shekel qui est le kofer nefesh? Alors je ne sais pas qu'est-ce que ça nous annonce, que notre ministre des Finances là nous a donné un shekel, Asara Mishkalo d'ailleurs, qui vaut 10 livres. De quoi ça va nous sortir, j'en sais rien, mais enfin, vous voyez à quoi on joue en Israël, on joue à la Bible, et c'est un grand jeu. Et alors là, voilà le problème. Altif Rosh Minatibur, parce que tu vas te prétendre être Israël toi tout seul, on va te juger sur la charte d'identité, la carte d'identité d'Israël, rencontre. Et tout le monde a capoté. Et on ne peut pas être juif tout seul. C'est clair. Bon.
Est-ce qu'on ne peut pas, de prendre la traduction, on pourrait le retrouver dans l'une des premières sociétés juives, c'est la société juive d'Alexandrie, quand ils ont traduit les 70, Torah en grec, ils ont traduit le nom, enfin, ils n'ont pas prononcé le nom de Seigneur, ils ont traduit le nom de Seigneur par Kyrios. Et ensuite, ce nom a été repris dans les évangiles pour le Christ.
Oui, c'est sûr. D'ailleurs, on ne sait plus qu'on parle. Mais ça fait rien. C'est la traduction du mot Adonai. Par exemple, si nous lisons Adonai, et nous le lisons dans une Bible chrétienne, le Seigneur c'est déjà quelqu'un d'autre. Adonai c'est mon Seigneur. C'est ça. C'est le filioque. Je sais, oui. Oui. Et vous voyez le problème, mais c'est pourquoi nous avons dans la demande que le jour
où les Grecs ont imposé la traduction des Septante. Et vous savez qu'elle s'appelle les Septante, ils ont demandé l'autorité d'un Sanhédrin. Le jour où la traduction en grec a été imposée, il y a eu 3 jours de jeûne. C'est une catastrophe. On va nous helléniser la Bible. Et ils ont réussi. Ils ont hellénisé les Juifs. On n'en est pas encore sorti. On a étudié ça à Hanouka, au séminaire de Hanouka. Et là, une des plus grandes victoires des Grecs contre les Juifs, c'est qu'aujourd'hui, on appelle, pour commémorer la victoire des Maccabées, ça s'appelle des Maccabiades. Mais qu'est-ce que c'est les Maccabiades? C'est les Olympiades. Regardez jusqu'où on s'est fait avoir. Alors le bon Dieu, il va nous empêcher d'aller aux Olympiades. Cette année. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions.
Vous n'avez pas répondu à la question, c'est parce qu'elle n'était pas très claire, je vais la reprendre. De la même manière que Israël semble se dégager des nations et est le dernier parce qu'il est la perfection, la chaîne à Kodesh est le premier, alors qu'il est langue apparaît juste après.
Mais parce que le Lachon HaKodesh, le Midrash que tu as cité, c'est que le monde a été créé. Oui, oui, Rashi cite un Midrash. Le monde a été créé par les 22 lettres de l'alphabet. Okay? De l'alphabet. Ça veut dire que les éléments du monde ont été créés. Dieu a créé le monde par sa parole, par la parole par la langue de vérité. Par conséquent, d'emblée, le premier homme doit parler hébreu. Il y a deux sortes de langues. Il y a la langue d'expression de la vérité, et c'est la langue de l'absolu. Et à le langage de communication des consciences. Le langage de communication des consciences, ça peut être n'importe quel dialecte. Et l'hébreu lui-même sert de langage de communication des consciences. C'est plus la chose à poser, c'est le hébreu de l'Espagne. Vous comprenez ce que je dis? Et quand je dis à ma femme, passe-moi le sel, donne-moi la serviette, eh bien je parle hybride, je ne parle pas la chambre à Kodesh. Okay? Vous comprenez ce que je dis? Et alors, il est donc normal que le monde soit créé en hébreu. Et seul l'homme qui parle hébreu, c'est l'homme du monde, c'est l'homme duquel on a parlé dans ce texte. Il n'y a pas de difficulté. Voilà ce qui se passe. Et reprenez ça dans le Kuzari, très en détail. La différence entre Israël et les nations qui ont précédé, c'est que depuis le premier homme jusqu'à Israël, il y a eu des individus qui avaient cette identité humaine authentique. Vous voyez? C'est les Melokim. À partir de Jacob, c'est un peuple entier. Voilà la différence. Mais il y avait des individus qui étaient les Hébreux chez les Goïm. C'est les grands initiés des grandes traditions. Ils sont tous des Hébreux. Et je vais vous dire, j'ai un petit peu étudié cela, mais il y a longtemps. D'après les Kabbalistes, la tradition humaine où c'est resté le plus pur, c'est les Gaulois. Oui, oui, c'est comme ça. Les Gaulois. Vous savez, les Gaulois qui avaient peur que le ciel leur tombe sur la tête, ça s'appelle Irat Shamaïm. Ils avaient Irat Shamaïm. Non, non, ce n'est pas des blagues. Et puis, dans leur rituel, il n'y avait pas d'image. C'était des chassidim motarolam, si vous voulez, de pure origine hébraïque antérieure à Israël. Okay? Certains disent que chez les Basques aussi c'est resté. Parce qu'il y a toute une histoire, les Ibères, les Ibériques. Okay? Bon, ça, les Sephardim, ils ont des secrets de famille, qu'est-ce qu'on est allé faire là-bas? Qu'il y a quelque chose comme ça. Tout ça, ça s'est perdu, mais on trouve dans beaucoup de lignées la prétention à être cet Israël de l'antique hébraïsme, okay? D'avant même Abraham. Par exemple, j'ai lu un livre d'un certain Stefan Milos, un lituanien, qui est un génie, un poète extraordinaire, qui a enseigné, enfin qui a écrit ces choses-là, et qui a passé sa vie à essayer de retrouver l'origine des Basques. Pareil, il y a trois langues, trois peuples qui sont très voisins, dont l'origine est mystérieuse, c'est les Finlandais, les Hongrois et les Basques. Okay? Tout ça, ça va ensemble, les Magyars. Et alors, selon lui, l'origine était vraie. Alors, vous permettez de vous parler, quoi, j'ai encore vendredi. Quelqu'un voudrait aller chercher mon tic au bureau? Mon tic, non, vous savez, c'est la serviette. C'est le tic qui est là-bas, Rachid. Et alors là, je vais vous parler d'autre chose. Ce que je vais vous dire là, j'y crois un petit peu, parce que c'est trop bien fabriqué pour qu'il n'y ait pas quelque chose, trop bien agencé, il n'y ait pas quelque chose là-dedans. Il a étudié la prétention de la famille royale d'Angleterre à être originaire de la famille royale. Vous savez que depuis les Plantagenets, on s'appelle David de père en fils chez les rois anglais, en se prétendant à être les descendants du roi David d'ailleurs, et puis avec énormément de privilèges qui viendraient de la famille royale. Voilà l'hypothèse qu'il a donnée. si c'est pas vrai, ça ressemble. Dis voilà, au moment de l'exil, de la perte des 10 tribus, il y a une tribu, qui était la tribu de Dan, qui est arrivée en Grèce, vous connaissez les Danaïs, la Danaï, ensuite, empruntant la vallée du Danube, suivez mon regard, ils arrivent au Danemark, et ils conquièrent l'Angleterre, et c'est ça l'origine par la tribu de Dan, vous savez que c'est les Danois qui ont tout le temps. Et alors, bon, il ajoute des choses farfelues, hein, que c'est pourquoi les Anglais se prétendent fils d'Isaac, Saxon, ça veut dire Isaacson. C'est vrai, c'est pas vrai, je sais pas, mais enfin, qu'ils se prétendent les hommes de l'Alliance, British, c'est abri. Seulement, est-ce qu'on peut oublier que c'est les Anglais qui ont diffusé la Bible, que c'est eux que nous avons reçus avec Israël, sur le plateau du Golan, vous voyez ce que je veux dire, il y a quelque chose avec ces gens-là. Ah oui, les rois anglais, pas des rabbins, toujours. Ah, ils savent qui. Bon, tu te rappelles de mademoiselle Talancier, elle se prétendait être de cette famille-là. Oui, par les Plantagenets, la souche française. Et il faudrait dire qu'elle était, d'ailleurs, elle était... Eh bien, pourquoi on parlait de ça? Ah oui, et alors, bon, il a expliqué que peut-être, effectivement, il y a une origine hébraïque aux Ibériques. Que les Ibères, c'est mystérieux, c'est hybride. Bon. Alors donc, il y a énormément de mots. Voilà de quoi je voulais parler. Vous entendez déjà à la radio depuis quelque temps ou à la télévision, je ne sais pas, que les principales tribus qui font la résistance aux Russes en Afghanistan, ça s'appelle les Pashtuns. Vous savez, alors maintenant que tu es au courant, bon, je vous dis très, très rapidement, parce qu'un de mes élèves fait partie d'une équipe qui s'occupe de ça sur le terrain d'ailleurs, il y a toute une série de tribus qui sont musulmanes et qui se prétendent, 15 millions ils sont, et qui se prétendent, ils habitent l'Afghanistan, c'est surtout les Afghans, le Pakistan et le nord de l'Inde. Et ils se prétendent descendants des 10 tribus perdues. Et alors, avec des détails extraordinaires, parce que maintenant, nous avons des juifs afghans qui sont venus en Israël, qui nous ont donné des témoignages vivants. Et alors, je vais vous passer rien que quelques photos pour que vous voyez ça. Ne me les esquintez pas, parce que ça doit aller à la tribu. 15 millions. 15 millions, quel? Et c'est eux le fer de lance de la résistance contre les Russes. Oui. Et... Bon, alors on a retrouvé chez eux énormément, j'ai là une brochure avec énormément de témoignages et de ce qu'on savait depuis les siècles là-dessus. Les Anglais les appelaient les Patans, c'est les seules tribus que les Anglais n'ont jamais pu subjuguer, je ne sais pas comment on dit. Et puis ils ont énormément de rites juifs, je vous en raconterai rien qu'un ou deux rapidement. Bien qu'ils soient devenus musulmans, ils portent quelque chose qui ressemble à Bantamfot, au Tzitzikatan. Le vendredi soir, ils allument une lumière qu'ils recouvrent d'un panier pressé en osier, officiellement pour pas que le vent, en réalité pour pas que ça soit de dehors. Comme ils sont musulmans, ils ne boivent pas de vin, mais le vendredi soir, ils boivent un verre de jus de raisin pour ne pas boire de vin. Ils ont quelque chose qui ressemble à Kippour, ils ont quelque chose qui ressemble à la Nida, des lois de Nida, etc. Passez-vous ces photographies, mais essayez de ne pas les chahuter. Et vous verrez les types juifs extraordinaires qui sont là-dedans.
On peut peut-être les mettre là-dedans.
Et ils ont une tradition qui descend des tribus de Joseph et d'Ephraïm. C'est d'ailleurs dans la tribu des Aphridis, Ephraïm, que se choisissent les rois, qui sont donc les tribus de Joseph qui doivent revenir en Israël à la fin des temps. Et nous avons, nous, les juifs, une tradition que c'est Joseph qui réglera son compte à Edom, l'armée rouge. Okay. Je ne sais pas si c'est l'armée rouge, on a tout ce monde-là qui s'appelle Edom, issu de la civilisation de Rome. C'est inouï qu'ils se sont découverts. Et alors, bon, ils sont musulmans. En fait, je ne sais pas ce qui va sortir de leur rencontre. Il y a des équipes d'Israéliens qui sont avec eux, d'ailleurs. Et puis, ça fait des années qu'on les connaissait. On n'en a pas parlé, mais c'était quand même. Maintenant, c'est connu. Alors, je vous montre. Et un de mes élèves fait partie d'une de ces équipes. Et il a préparé un article qui paraîtra dans l'information juive, je ne sais pas dans quel numéro, vous aurez tous les détails. D'ailleurs, extraordinaire ce qu'on a comme témoignage à ce sujet. Bien. Alors, c'est pour vous dire, nous sommes peut-être au temps où les descendants des 10 tribus perdues vont se dévoiler et où les Juifs vont retrouver Joseph. Et alors, à ce moment-là, si on a 15 millions de Pashtuns avec nous... oui,
et en traduction, alors vous conseillez plutôt de lire des traductions anglaises ou des commentaires en anglais.
Écoutez,
quand on ne sait pas bien les mots.
Le livre que je connais, c'est la traduction du Pentateuque avec Rashi de Silverman en anglais, qui est excellent. Excellent, fantastique. Hein? Là, on est à l'air. Alors que le Salomon Mou, que Rodomunar,
c'est pourtant un héros, il est pas.
Ce sera pas Salomon.
Mais oui, mais il pense en hébreu quand même.
Et ils parlent en hébreu, israélites français. Ah, ils sont français jusqu'au sourcil. Laissez-moi parler, je sais de quoi je parle. Je suis désolé. On prend le pirouche du début jusqu'à la fin. Eux, dans leur langue, de leur vie intérieure, c'est exact ce qu'ils pensent. Dès qu'ils traduisent, ils nous traduisent dans des mots qui disent des choses autres que ce qu'il y a en hébreu. Eux, ils pensent juste, mais leur texte est faux. C'est ça que je veux dire. Depuis le début jusqu'à la fin. Si vous voulez, on fait des exercices.
Dans les commentaires, on a
tout.
Mais la loi de traduction, c'est qu'en fait, on connaît le
quotidien. Oui, qui est un hébreu, peut parler dans une autre langue exactement. Mais l'homme étranger de notre langue va me traduire mon hébreu, il va... vous avez compris ce que je veux dire.
Et le mot de Chouraki, par exemple.
C'est un très beau poème français. Un très beau poème.
C'est le seul qu'on peut suivre en mot d'amour.
Non, suivez plutôt celui de Flegg, qui est beaucoup plus hébreu. Mais non, écoutez, je vais vous dire, on est arrivé quand même en un temps où, je sais bien, il faut le temps, mais c'est à l'échelle humaine. Apprenez l'hébreu, vous verrez la différence, c'est tout. Et ça, c'est pas le même problème. Non, je vous dis, on prend, depuis le début jusqu'à la fin, les adéquations cherchées sont des trahisons systématiques. Je ne veux pas dire que c'est intentionnel. Mais ils ne sont pas contents. C'est ça le problème.
Il
n'y
en a pas, toi.
Il n'y en a pas, jamais. Ça, en français,
collègue. Mais en anglais, on peut donc lire le...
Ah, le Superman, ça, c'est pas bon. Bien, oui.
Je peux poser une dernière question, mais c'est une question un petit peu de détail. Vous avez dit qu'Abraham en a rajouté une 8e mitzvah à Israël, une 9e.
Ah non, à Jacob, pas Israël. Jacob,
une 9e.
Et Israël, toute la terre.
Et comment ça se fait? On leur a rajouté.
Des
quatre. C'est ça, il y a un choix. Je fais. Et 4 ans, c'est ça.
Bien sûr, attention.